Bonjour à tous, bonjour Éline.
Bonjour Sandra.
Ça y est, cette fois il est là, on ne le lâche plus, le printemps est arrivé cette semaine. Avec lui, les activités côté jardin s'imposent, gazon, arbres fruitiers, plantes d'intérieur, tout y passe. Avec les jardinières ce matin, c'est en compagnie de Christophe Talman que nous allons parler jardin, bien évidemment. Christophe est paysagiste à Corgémont et c'est avec lui que l'on s'affaire. Christophe, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Christophe est là pour répondre à toutes vos questions et justement des questions si vous en avez. N'hésitez pas à nous les poser dès à présent par téléphone en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Jusqu'à 8h, nous répondons à vos questions concernant vos plantes d'intérieur, potager, gazon, peu importe. Et si vous êtes un peu frileux côté téléphone, n'hésitez pas à nous envoyer un SMS. Vous tapez le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939. Et durant toute la semaine, vous pouvez également envoyer vos questions par formulaire par Internet. D'ailleurs, si vous êtes devant votre ordinateur, vous pouvez également le faire durant l'émission.
Bienvenue parmi nous, bienvenue chez les jardinières. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Nous avons reçu des questions durant toute la semaine, une question notamment de Marie de Sonvilliers.
Oui, Marie qui nous a écrit que sur les conseils d'un proche, on lui a dit qu'en ce début de printemps, passer un râteau sur son gazon va le rendre plus vert durant les prochaines semaines. Marie aimerait savoir si c'est vrai, Christophe.
Alors, tout à fait. Je connais pas exactement l'état du gazon de Marie. Après, il est clair que passer un râteau, dans le langage professionnel, c'est plutôt une scarification qu'on va parler. C'est-à-dire aérer le gazon de façon à ce que toutes les choses qui n'ont rien à faire entre les graminées du gazon disparaissent. Donc effectivement, c'est une bonne chose, quoi.
Et ça, on peut le faire avec n'importe quel râteau qu'on trouve dans le commerce ?
Alors non, je pense pas. Alors on peut trouver des espèces de râteaux à dents. Je sais que dans le commerce, il existe des râteaux à dents spécifiquement faits pour ça. Après, c'est clair, c'est pour des petites surfaces. Maintenant, quand on parle de plus grandes surfaces, à mon avis, une machine s'impose, une scarificatrice, à mon avis.
Ou alors demander à un professionnel. En tous les cas, ce qu'on peut dire à Marie, c'est mieux de passer le râteau que de se prendre un râteau. Éline, il y a Marlise de la Neuville qui a vu des citrons en vente dans un grand magasin et elle veut savoir ces citrons, s'ils peuvent pousser dans la région ou alors s'ils ne font qu'office de décoration.
Alors, en pleine terre, il est clair et net que ces citrons ne vont pas donner de citron. C'est vraiment des plantes d'orangerie. Donc, c'est des plantes qui poussent en pot, sur terrasse. Des plantes qui, l'été, sont superbement, on va dire, décoratives. Non seulement par leurs fleurs, ainsi que par leurs fruits. Par contre, si elle pense les planter dans son jardin, là, c'est clair que l'hiver, ils ne vont pas supporter l'hiver, les hivers de chez nous.
Donc on pourrait s'imaginer avoir un petit citronnier en pot, le mettre à l'extérieur en été et le rentrer peut-être dans un jardin d'hiver.
Voilà, par exemple, ouais. Alors c'est clair que les fleurs ont un arôme, enfin plutôt une odeur hyper décorative et tout. Par contre, pour faire des caipirinhas, ça va être tendu. On est d'accord,
surtout,
ça va donner...
Surtout à 7h15 le matin, on va surtout pas faire de caipirinhas.
Surtout à 7h15 le matin, mais bah, voilà, on est d'accord, ça donne des petits citrons. Là, les citrons sont purement décoratifs, donc ça va pas donner les beaux gros citrons jaunes comme on a l'habitude de voir sur le marché.
On a aussi Thomas de Courfèvre qui nous demande quand est-ce qu'il doit fertiliser son gazon. Est-ce que c'est dès début du printemps, donc en cette période-là, ou bien seulement quand on voit qu'il ne pousse pas bien, qu'il faut penser à le fertiliser?
Alors j'ai envie de dire à Thomas que lorsqu'il verra que son gazon ne pousse pas bien, c'est trop tard en fait. Donc c'est chaque année, un gazon pour qu'il soit vraiment au top, c'est chaque année qu'il faut le fertiliser. Le gazon lui-même est un grand mangeur d'éléments organiques, donc un apport d'engrais annuel, au minimum une fois par année, à mon avis, est indispensable. Donc début d'année, avril, c'est le mois sur lequel on fait le plus gros des gazons, quoi. Tous les travaux d'apport d'engrais, de scarification par exemple, tout ce genre de travaux-là se font en avril pour qu'en août, on ait quelque chose de plus ou moins potable selon nos exigences.
Allez-y Sandra.
du gazon. Mais vous aviez encore une question sur le gazon, Guylaine ? Parce que j'allais passer au balcon.
Mais moi, je voulais juste savoir si, par exemple, quelqu'un venait d'emménager dans une toute nouvelle maison et qu'il voit que son gazon, il est vraiment dans un état pitoyable à cause du propriétaire précédent. Qu'est-ce qu'il peut faire pour débuter maintenant, pour faire en sorte que son gazon soit plus sain?
Après, chacun a ses exigences. Après, je ne sais pas qu'est-ce que vous...
Par exemple,
vous
si c'est un...
pitoyable, quelques marguerites dans... par-ci, par-là.
Non, juste qu'il soit pas très vert, qu'il ne pousse pas bien, qu'il ait des gros morceaux de terre et qu'à ce moment-là,
d'accord,
il n'y ait pas
ouais,
de...
Ouais,
c'est
ouais,
ça
ouais,
que moi, je définis comme un gazon pitoyable.
Donc, très, très pitoyable, on est d'accord. soit il repart à zéro, donc, c'est-à-dire avec un engazonnement complet de la surface, et puis il repart avec quelque chose de correct... au sens large du terme, ou bien alors il essaie de faire avec ce qu'il a, entre guillemets, hein, et puis avec de l'engrais, de la semence, puis quelques petites prières, je sais pas. C'est la nature après. Vraiment, c'est hyper compliqué.
Maintenant, on peut pas tout maîtriser. Hein.
Non, vraiment pas du tout. Et puis si vous partez du principe que ce gazon en question a de grandes tâches, tout dépend des tâches. À mon avis, il vaut mieux employer les gros moyens que à petite dose de petits moyens. Voilà, on n'arrivera pas au résultat escompté.
Il arrive quelquefois, lorsqu'on vient de le semer, lorsqu'il pousse, qu'il fasse comme des grosses salades, ce gazon. Ça vient de quoi ? Du manque d'arrosage ou trop d'arrosage ?
Non, alors ça, c'est... Selon mes connaissances, on est bien d'accord, c'est des graines qui sont dans la terre, qui poussent... étant donné que lorsqu'on fait un gazon, on motocule la terre, donc c'est-à-dire qu'on retourne la terre, et c'est des graines qui se retrouvent à la surface de la terre qui, sans notre passage, ne seraient pas à la surface de la terre. C'est-à-dire qu'au contact de l'air et tout, ces graines poussent, d'accord ? Et c'est des herbes qui après la première tente, disparaissent, quoi. On va dire que c'est des annuels de gazon.
D'accord.
Donc, avec les tontes, ça disparaît. Donc, dans nos régions, c'est...
Ça arrive fréquemment.
Inévitable. Okay. Inévitable. Honnêtement, inévitable.
Je viens de recevoir, nous venons de recevoir un SMS, et c'est Martin du Cerneveux-Île qui nous dit que chez lui, ils sont envahis de taupinières dans leur gazon, et il demande ce qu'ils peuvent faire.
Pas massacrer les taupes, hein, j'espère.
Non, loin de là, on n'est pas des sanguinaires. Olé. Alors, il est envahi de taupes.
Oui.
Alors, il existe des appareils qui fonctionnent par ultrason, que l'on plante dans certains endroits du jardin. Des appareils solaires qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Je ne pense pas que j'ose donner de nom spécialement.
Moi, c'est mieux pas.
Hein, on est d'accord.
Hein, ouais. Voilà.
J'ai bien pensé. Enfin bon, bref, quoi, on peut trouver dans de grandes surfaces des appareils qui sont spécialement conçus justement pour les taupinières. Enfin, les taupes spécialement de Monsieur Martin.
Ok, alors je voilà. Sais que Martin sera content. Et puis, il n'y a que ça à faire.
Je le salue au passage.
Si par hasard, si Christophe, il n'a pas envie d'investir dans ces éléments sonores qu'on trouve, comme vous l'avez dit, dans le marché, sur le marché, est-ce qu'il y a une façon naturelle ou autre chose, ou il n'y a que cette solution-là?
Alors j'imagine qu'il y a des solutions naturelles comme on en trouve un peu partout. Maintenant, honnêtement, selon moi,
c'est
très compliqué de stopper des taupes.
On peut pas faire quelque chose en prévision. Elles viennent où elles se sentent bien. Enfin.
Elles viennent où elles se sentent bien. Alors ça, c'est clair et net. Maintenant, si elles viennent, c'est qu'elles ont quelque chose à manger, forcément, hein, sinon elles ne viendraient pas. Peut-être enlever l'élément nutritif qui les fait venir. Reste à savoir lequel est. Hein. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc je pense que la façon par ultrason est, selon moi, la meilleure, sans devoir passer au couteau.
Merci beaucoup, Christophe. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour répondre à toutes les questions des auditeurs. Questions qui peuvent nous poser dès à présent par téléphone. Je vous rappelle le numéro, c'est le 0901 70 20 20. Appelez-nous, on ne mord pas, on parle même de capyrénien, donc vous voyez. Hein. Ou bien alors, vous tapez le mot jardin suivi d'un espace, puis de votre question, et vous nous envoyez tout ça au 939.
Et nous étions en train de parler de gazon, mais juste avant, Eline, petite information.
Information question, bah oui, on attend encore vos appels puisqu'on est ensemble jusqu'à 8h, je vous le rappelle. Vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes à la minute. Christophe est là pour répondre à toutes vos questions au 0901 70 20 20 ou alors par SMS, vous tapez le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Bah oui, parce que si on n'a pas votre question, on ne peut pas y répondre. Et vous envoyez tout ça au 939, donc jardin, espace, votre question. Et vous nous envoyez tout ça au 939, d'ailleurs une question par SMS, oui. Je crois qu'on en a reçu une,
Sandra. C'est ce qu'a fait justement Stéphanie et Sébastien de Corgémont. Ils nous ont envoyé un SMS l'été approchant. Ils aimeraient savoir comment faire pour bien tondre leur gazon pour qu'il reste beau et fourni.
Christophe.
Alors, la densité du gazon dépend de l'apport d'engrais, encore une fois. Donc, je pense que Stéphanie et Sébastien ont besoin d'un gros apport d'engrais dans leur gazon. Et puis après, des tondes régulières.
Régulières, ça veut dire quoi?
Ça veut dire... Et après, il n'y a pas de tabelle. On parle de nature, donc tout dépend de l'orientation de ce fameux gazon, tout dépend du terrain sur lequel pousse ce gazon. Maintenant, ça veut dire, je pense, selon moi, mes critères, toutes les semaines et demie. Hein? Mais c'est tout est relatif. Ouais, voilà,
tout est relatif sur
le gazon. On parle de
gazon.
Choses qui poussent, hein? On est d'accord. Donc, voilà.
Alors, comme on est toujours en train de parler gazon, pour tous ceux qui veulent s'apprêter à sortir leur tondeuse, avant de faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment faut-il faire pour chérir son gazon et ses alentours, Christophe?
Donc bon, il faut bien avoir conscience, à mon avis, qu'après l'hiver, donc le gazon était en dormance, entre guillemets, c'est-à-dire que pour certains, dans certains endroits, il a vraiment... ramasser peut-être, enfin ramasser entre guillemets, supporter le poids de plus ou moins 15-20 cm de neige pendant plus ou moins un mois, donc ça veut dire que là il n'a pas eu de lumière, il n'a pas eu de... voilà, rien pour vivre. C'est-à-dire que maintenant, avec l'augmentation des températures et tout, ce gazon va reprendre vie, entre guillemets, et là, au printemps, donc mois d'avril, mai, c'est vraiment là qu'on y met un petit coup de booster, si j'ose me permettre ce mot. Donc un apport d'engrais rapide, c'est-à-dire un engrais qui sera efficace sur une durée déterminée, vraiment pour lancer la chose, histoire que les herbes indésirables dans un gazon ne prennent pas le dessus sur les graminées du gazon, celles qu'on veut voir apparaître durant l'été.
Est-ce qu'il y a des engrais naturels pour le gazon? Bien, c'est surtout ceux qu'on trouve dans le commerce qui sont le mieux pour démarrer la saison.
Alors après, il existe plein de choses. Il y a bien sûr des engrais naturels qui fonctionnent tout autant bien que les engrais chimiques. Par contre, il faut être un petit peu plus patient.
Ça prend plus de temps avec les choses naturelles.
Un engrais naturel, il faudra peut-être en mettre en quantité... Peut-être en mettre deux fois par rapport à un engrais chimique qui aura vraiment une efficacité beaucoup plus rapide. Mm-hmm. Tout dépend si on est pressé ou pas. C'est un peu ça.
Et ce qu'on voit aussi qui est très tendance, c'est justement, vous parliez des marguerites tout à l'heure. Et il y a beaucoup de monde qui laisse des touffes hein, en passant leur gazon pour ne pas les abîmer. Alors, à partir de quel moment on décide de tout raser, finalement, parce que ces touffes, on ne peut pas les laisser non plus in aeternam?
Question piège. Encore une fois, mais enfin voilà. À partir du moment où elles sont plus belles, j'ai envie de vous dire quoi. Hein, tant qu'elles sont belles,
non,
il
n'y
a pas. Il y a pas spécialement de recette, je pense. Tant qu'elles sont plaisantes à l'œil, je pense qu'on peut les laisser, pour autant que ça plaise à la personne en question. Maintenant, c'est tout dépend de l'orientation, tout dépend. Voilà. C'est vraiment vaste. Mais à partir du moment où la marguerite en question commence de baisser de la tête et puis sale mine, on va dire ça comme ça, là, je pense qu'il est bon de la couper, quoi.
Ok. Christophe, vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour répondre aux questions des auditeurs. D'ailleurs, vous qui nous écoutez là tout de suite, vous pouvez vous poser les questions et surtout nous les poser à nous au 0901 70 20 20, tout simplement par téléphone. Christophe est là pour répondre à toutes vos questions au 0901 70 20 20 ou alors par SMS. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question et vous envoyez tout ça au 939. Mais nous, pour l'heure, on prend des nouvelles du ciel et de la route.
des jardinières ce matin qui parlent beaucoup de gazon, mais pas que, et des jardinières qui vous ont proposé de nous appeler. Et on a justement un appel là tout de suite au téléphone, Gaston. Allô, allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous appelez-vous ?
Jean-Claude Richard.
Bonjour Jean-Claude, bienvenue chez les jardinières. Jean-Claude, quelle est votre question ?
Alors, moi je collectionne des orchidées, puis j'en ai plusieurs qui sont sur une tablette de fenêtre, à mi-soleil, mais qui ont beaucoup de lumière. Et depuis 3-4 semaines, j'ai constaté qu'elles avaient des tas de points blancs. Alors, je ne sais pas si c'est un champignon ou des insectes. Alors, ce que j'ai fait, je les ai douchés sérieusement. J'ai coupé des bouts de feuilles où il y avait vraiment une invasion, mais je ne sais pas vraiment quoi faire. Et puis, ça a proliféré sur toutes les plantes que j'ai. Est-ce que vous pouvez me donner un conseil ?
Christophe est là pour ça, justement. Christophe, vous connaissez en orchidée, j'imagine un peu.
Oui, bien sûr. les magnifiques plantes, hein, magnifiques plantes, entre nous soit dit. Bref, donc je pense que... Après, c'est difficile de parler sans avoir vu la plante en question.
C'est un peu comme la ouate.
Voilà. C'est un peu comme de la ouate. Donc ça fait des espèces de petits paquets, comme ça ?
Oui, exactement.
D'accord. Donc il y a
juste quelques centimètres carrés sur une feuille.
Ok. Donc alors il... ça peut être
une chenille.
Non. Ça peut être une araignée qui fait ce genre de choses. Ça se voit souvent sur les plantes d'orangerie. Donc plantes d'orangerie, c'est par exemple un olivier, ou bien des plantes qui restent à l'intérieur. Donc pendant l'hiver, forcément, vous aérez moins, sinon vous avez froid chez vous.
Et les plantes aussi ont froid.
Donc du coup, l'air qui est à l'intérieur de votre appartement, votre maison, est, on va dire, plus chargé en CO2. Et c'est vraiment le manque d'air pur, entre guillemets, donc l'air extérieur qui pourrait amener ce genre de choses. Donc c'est une araignée qui pourrait faire ça. Mais maintenant, ça peut aussi être fongique. Donc sans avoir vu la plante, c'est compliqué de dire. Maintenant, si vous me dites que ça fait comme de la ouate, à mon avis, c'est plutôt un insecticide qu'il faudrait appliquer sur vos orchidées.
C'est pas nocif pour les orchidées, un insecticide.
Du tout.
Dans ce sens-là, j'entends la maladie, ça m'a fait crever plusieurs orchidées. Et puis, comme elles sont assez serrées,
ça vous les a fait... Ouais, justement, donc c'est ça qui me fait penser que c'est plutôt un insecte plutôt qu'un champignon, parce que c'est rare qu'un champignon se transmette comme ça on va dire de genre en genre. Qu'elle attaque des orchidées, d'accord, un champignon peut attaquer plusieurs variétés d'orchidées. Maintenant, si par exemple vous avez un ficus à côté de vos orchidées, de là que le champignon attaque un ficus, selon moi, c'est plus ou moins rare. Donc c'est plutôt un insecticide que j'appliquerai sur vos orchidées. Mais c'est clair que c'est un insecticide total qu'on peut trouver.
De crever si on les spray.
Du tout. Non. Alors, l'insecticide n'aura aucun impact sur la plante. Par contre, c'est clair qu'il faut, bien lire le dosage qui est recommandé par le fournisseur de cet insecticide en question. Histoire que pas de mal. Non, mais c'est des produits qui sont faits pour. Donc la plante ne risquera rien. À mon avis, c'est vraiment le fait que ces plantes ont été dedans pendant 3-4 mois sans vraiment avoir de l'air pur de l'extérieur qui a amené ces petits tas de ouates. À mon avis, c'est vraiment une araignée. Mais encore une fois, sans avoir vu la plante en question,
ouais.
C'est un petit peu difficile de répondre à votre question. Mais voilà.
D'accord.
Tout ce que je peux vous dire.
J'ai une autre question encore.
Dites-moi tout.
On est là pour ça.
J'ai un citronnier, un mandarinier. Alors le mandarinier, je l'ai mis dans la véranda.
Oui, c'est parfait. Ouais.
La véranda, elle est en 10 et 15 degrés. Il est plein de fleurs, mais alors vraiment, c'est un bouquet magnifique.
Mm-hmm.
Par contre, le citronnier, je l'ai dans le salon, c'est aussi par rapport à la place que j'ai dans la véranda. Il m'a fleuri plusieurs fois cet hiver. Il m'a donné des petits citrons, mais il tombe chaque fois.
Ouais, alors ça. Le moradinier, le moradinier qui était dans la véranda, lui était à la bonne température, entre guillemets. Je pense que dans votre salon, il fait trop chaud. C'est-à-dire que bien que ce soit des plantes méditerranéennes, enfin du sud, quoi, elles ont quand même besoin d'avoir un cycle de température plus fraîche, d'accord ? Je pense que chez vous, il fait en moyenne 20 degrés, hein, c'est plus ou moins la température c'est plus ou moins ça. Donc elle n'a pas eu son cycle, alors que celle qui était dans la véranda a connu une période plus fraîche, ce qui a permis d'avoir son cycle régulier. Maintenant, comme je l'ai dit avant, c'est très compliqué d'avoir des citronniers qui fassent des citrons vraiment comestibles chez nous. Hein, vraiment. Parce que déjà, c'est des plantes qui sont en pot. Donc, des plantes en pot ont forcément moins de nutriments que des plantes en pleine terre. Mais en même temps, si on les met en pleine terre, elles ne peuvent pas vivre chez nous. Donc c'est plus ou moins... Non. Les citronniers chez nous, franchement, font des citrons, mais c'est plus décoratif qu'autre chose, quoi. D'accord. Donc c'est plus ou moins normal.
Est-ce que la grosseur du pot pourrait faire quelque chose?
Alors la grosseur du pot fait énormément, c'est clair. Plus le pot est gros, plus les racines ont de la place, plus l'arbre se porte bien. Mais après, voilà, plus le pot est gros, plus il est lourd, plus il est compliqué à manutentionner. Après, il faut savoir dire stop, quoi. Hein. Mais c'est clair d'accord. que plus on donne à la plante, plus elle aimera. Hein, on est d'accord.
D'accord. Et puis maintenant, je vais le mettre dehors quand il fera beau, donc ce sera avril-mai. Hein.
Oui.
Est-ce que je dois faire une taille de rabattage et donner un peu une forme ou je le laisse tel quel?
Alors, je ne ferai pas cette... Alors, à mon avis, déjà, il faut déjà le mettre dehors, d'accord? Donc, changement d'air complet. Hein. Mm-hmm. Déjà, ça va y faire un petit choc. Ensuite, l'arroser abondamment, parce que j'imagine que pendant l'hiver, vous l'avez un peu moins arrosé, chose qui est normale et préconisée. Donc, l'arroser abondamment, à partir du moment où vous le sortez, vous l'arrosez vraiment, vous le noyez, entre guillemets, quoi. Vous le laissez comme cela pendant 2 semaines. Et puis, à partir du moment où vous constatez qu'il reprend vraiment vie à 100%, à ce moment-là, vous pouvez faire une petite taille, mais je pense pas. Vraiment, à condition que ce soit nécessaire, cette taille. D'accord. Je ne pense pas que ça sert à grand-chose de tailler pour tailler, vraiment pas. Hein. Parce que c'est vraiment des plantes qui sont pas adaptées à nos climats. Donc, ouais. Donc on fait en sorte qu'elles survivent chez nous. Donc, si on les taille, on leur fait, entre guillemets, du mal. Et voilà, quoi. Vraiment, merci. Une taille si nécessaire. Hein.
Merci.
Et puis de l'engrais. Toujours de l'engrais. Ouais. Faut leur donner à manger à ces plantes.
Pour agrumes, quoi.
Voilà. L'engrais liquide, après on trouve plein de choses sur le marché. Il faut leur donner à manger. Parce qu'en plus, si elles sont en pot, elles ont la nourriture qui est contenue dans le pot. Donc à manger, je pense que c'est le mot d'ordre.
D'accord, merci.
Merci à vous Jean-Claude d'avoir appelé. N'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit comme problème. Bon week-end, au revoir.
Bon week-end.
Merci beaucoup. Et je vous rappelle que tout comme Jean-Claude, vous pouvez nous appeler hein, pour qu'on réponde à vos soucis, vous donner simplement des conseils concernant vos plantes. Vous nous appelez au 0901 70 20 20 ou vous nous envoyez un tout petit SMS. Vous tapez le mot jardin suivi de votre question et vous envoyez tout ça au 939.
Et c'est ce qu'ont fait Sam et Mel qui en parlant de jardin, aimerait savoir quelle technique utiliser pour tailler une haie afin qu'elle soit droite.
Olé. j'ai envie de vous dire un savoir-faire peut-être. Je sais pas. Non. Pas de prétention ici. Je sais pas quelle technique. Peut-être avoir un espèce de chablon histoire d'avoir toujours la même hauteur. On pourrait imaginer un espèce de une grande équerre qui nous permettrait d'avoir... Mais après, c'est un bon œil, quoi, je pense. Ouais,
voilà. Et aussi une taille régulière, j'imagine, puisqu'elle a toujours une ou deux branches qui pourront dépasser. Et puis, du coup, surveiller régulièrement.
Mais après, on taille rarement plus de 2 fois par année, quoi. Tout dépend quel genre d'essence la haie en question est. C'est compliqué à répondre à cette question, quoi.
Donc peut-être justement avoir une sorte de grande règle, de grande planche ou quelque chose comme ça pour.
Histoire d'avoir un niveau prédéfini. Et puis, mais après c'est surtout l'homme qui taille la haie qui fait. Donc ça m'émêle, je suis désolé, mais c'est un petit peu...
Alors du côté, par contre, des SMS, ça s'emballe un peu, mais alors du côté du téléphone, ne quittez surtout pas, je vais vous prendre les uns après les autres. Donc restez, ce n'est pas parce qu'on ne vous répond pas immédiatement qu'on ne va pas vous prendre. Nous avons justement, Christophe, un téléphone, nous avons une personne en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Qui est au téléphone ?
C'est Maud.
Bonjour Maud, vous pouvez poser votre question à Christophe.
Oui, alors j'ai une petite question, j'ai un saule tortueux et puis il a déjà commencé de sortir des feuilles, donc je voulais savoir si on peut encore le tailler ou c'était trop tard.
Alors, le bonjour Maud déjà, hein. Première des choses. Maintenant, un saule supporte la taille, donc c'est le genre de plante qui, sur lesquelles on ne peut pas faire de mal, selon moi, encore une fois. Donc, maintenant, ce serait dommage de le faire maintenant, tout de suite, d'accord ? À partir du moment où il a sorti, parce qu'il est, là, il est en plein redémarrage, entre guillemets, donc là, on y stopperait tout. Par contre, d'ici... d'ici un mois et demi, il n'y aura pas de souci.
D'accord, ok.
Ceci uniquement parce que c'est un saule. Hein. C'est vraiment une plante qui supporte beaucoup de choses et puis qui pousse constamment. Donc voilà, c'est une plante qu'en pleine terre ou en pot ?
En pleine terre.
En pleine terre, d'accord. Alors c'est encore mieux. Non, alors, maintenant, si vous devez le faire, faites-le, pour une raison X, voilà. Mais si vous n'êtes pas obligé, laissez-lui deux mois et puis vous pourrez le faire après.
D'accord, ok.
Je pense que c'est mieux.
Si vous me permettez, j'aurai encore une autre question. En fait, on a planté des groseilliers et myrtilliers et je voulais savoir quel type de plantes on pouvait mettre à côté de ces arbustes.
D'accord, non, mais ok.
Par exemple, pour que l'une ne prenne pas le dessus sur l'autre, c'est ça ?
Voilà, et si, qu'est-ce qui est compatible ? Quel bon compagnon à côté d'un groseillier et puis d'un myrtillier ?
Il faut que ça soit décoratif, il faut que ça soit pas d'autres fruits.
Par exemple, des aromates, on pensait mettre des aromates, est-ce que c'est possible ou pas ?
Ah oui, sans problème. Après, il faut bien sûr que votre plantation soit exposée sud. Parce que tout ce qui est plante aromatique aime le soleil. Hein. Mm-hmm. Donc, il faut que par rapport à l'arbre, le soleil tape vraiment sur... Donc, on ne va pas le mettre au nord de l'arbre. Hein. On se comprend par rapport au soleil. Maintenant, tout ce qui est plante aromatique, oui. Après, par exemple, si vous plantez de la menthe, la menthe a tendance, à partir du moment où elle se plaît à un endroit, à s'étendre.
Vraiment. Ouais, ouais. Magnifique. Hein.
Donc, la planter à distance raisonnable, quoi.
D'accord.
Mais il y a...
Pardon. Est-ce qu'on peut mettre aussi des fleurs, hein ?
Alors oui, bien sûr. Un groseillier en soi, c'est arbustif. Pour certaines essences, c'est indigène. Donc c'est vraiment des arbustes qui sont très robustes, quoi. Donc c'est pas une petite fleur.
Oui, en sachant qu'on a mis donc de la terre de gruyère au pied des myrtilliers.
Oui.
Donc je pense qu'il y a certaines plantes qui ne supportent pas cette terre assez acide.
Alors, il y a certaines plantes qui ne supportent pas ça. Maintenant, étant donné qu'ils sont plantés en pleine terre, on est d'accord. Vous n'avez pas fait un...
Oui.
Vous n'avez pas fait un espèce de bac.
Non.
Parce que vous avez simplement mélangé un petit... Voilà. Donc n'importe quelle plante survivra là-dedans. Étant donné que la terre de bruyère, en quantité abondante, ce sera trop acide. Par contre, en petite quantité, ça va même favoriser le racinement. D'accord, ça va aérer le sol. Donc n'importe quelle plante va se plaire là-dedans. Maintenant, moi, je ne planterai pas trop de choses autour de ces groseilliers. De façon à ce que ça ne fasse pas jungle tout de suite, quoi.
Enfin, parce que justement, pour éviter qu'il y ait trop de mauvaises herbes qui poussent, est-ce qu'on peut mettre des copeaux?
Alors, voilà, je mettrais plutôt quelque chose comme ça, genre copeaux, ou bien alors cailloux décoratifs. Enfin, il y a plusieurs choses, histoire que... Enfin, pour faire en sorte que l'entretien soit plus ou moins simple, quoi. Mais je ne planterais pas, honnêtement, selon moi, je ne planterais pas... trop de choses aux alentours de ces arbustes, histoire qu'ils aient bien la place, et puis surtout, ouais, que ça fasse pas genre jungle après peu de temps.
Mm-hmm. Voilà, oui. Et puis quel type de copeaux on peut mettre alors au pied ?
Alors vous avez deux sortes de copeaux. On a les copeaux qui sont dits standards qu'on trouve sur le marché. C'est des copeaux bruns.
Oui.
Donc qu'on l'aspect ben, voilà quoi, copeaux de bois. Et puis, okay. Tu vois, on a les plaquettes, donc c'est des plus petits copeaux qui sont de couleur, qu'est-ce qu'on dit, beige. Et puis, c'est des copeaux qui sont plus ou moins calibrés, par contre, qui pourrissent plus rapidement. Donc d'accord, ça.
Et qui amènent aussi des essences de la forêt, en fait. Il y a des choses qui poussent.
Voilà, donc en pourrissant, si vous voulez. Donc là, il faut absolument faire un apport, à mon avis, hein, encore une fois. Voilà. Je ne sais pas, la science infuse non plus, mais selon moi, il faut faire un apport annuel. Si on part sur ces petits copeaux qui ont vraiment totalement un autre aspect que les brins, il faut faire un apport annuel, parce qu'en pourrissant, ils amènent du nutriment dans la terre qui fait pousser les choses. Donc voilà.
Okay, donc on apporte en chacun. Les gros brins, en fait.
Il n'y a pas de mieux, de moins bien, je pense pas. Il y a juste deux façons de travailler qui sont un peu différentes. Si vous voulez plus du tout de mauvaises herbes, les brins sont mieux. Pourrissent moins vite, et puis peut-être avec un peu de chance, vous pourrez même avoir des morilles.
D'accord.
Voilà.
Alors c'est gentil, merci beaucoup.
Une belle journée, Maud.
Merci, Maud.
Merci, au revoir.
Si comme Maud, vous avez aussi une question à poser à Christophe, hein, c'est maintenant, on est encore ensemble pendant quelques minutes. Appelez-nous au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. 0901 70 20 20 pour poser directement votre question à Christophe, un paysagiste de Corgémont qui est avec nous encore pendant quelques minutes. Ou alors vous nous envoyez un SMS, vous tapez le mot jardin suivi d'un espace, puis de votre question et vous envoyez tout ça au 939.
Et ce matin, il n'y a pas de frileux, nous avons un téléphone. Bonjour. Allô, allô.
Allô.
Est-ce que...
Mais allô, ah. Allô, allô.
C'est où?
Ah, chez les jardinières, oui, vous êtes.
Vous êtes chez les jardinières.
Oui, j'ai écouté la radio, c'est pour ça. Écoutez.
Alors, il faut la baisser, votre radio, derrière, parce qu'elle fait écho.
Oui, d'accord.
S'il vous plaît.
Voilà. Écoutez, dans les arbres fruitiers, on peut avoir une réponse?
Mais bien sûr, oui, tout le jardin, tout ce qui concerne le jardin.
J'ai un grand pommier que j'ai raccourci ici un peu, fait une taille de rajeunissement ce printemps. Puis maintenant, on m'a dit qu'il fallait essayer d'y enlever toute la mousse. Il a énormément de mousse dessus. Est-ce que c'est une bonne chose ou je perds mon temps?
Christophe, qu'est-ce que faire contre la mousse du pommier?
Alors, si vous avez fait une grosse taille déjà de 1 sur ce fruitier cette année, vous aurez peu ou pas de fruits cette année. J'espère que vous en êtes conscient. Hein? On est d'accord. Ça, c'est sûr. Alors, tout va bien. Alors, tout va bien. Maintenant, pour revenir à la mousse, je ne pense pas que cette mousse date de l'année passée. D'accord? Donc, ce fruitier
non,
a tout... C'est quelque chose. C'est assez épais, et puis c'est quelque chose qui est là depuis 10-15 ans, à mon avis. Hein.
Oui.
Donc, ce fruitier a toujours survécu avec cette mousse. Donc, selon moi, à mon avis, vous perdez votre temps. Laissez cette mousse, à moins que visuellement, elle vous dérange. Hein.
Oui, bon, l'arbre, parce que j'en avais deux. Un, je l'ai pratiquement fait, puis maintenant je voulais attaquer l'autre. C'est vrai que celui que j'ai fait visuellement, il est beaucoup plus joli, hein, ça c'est sûr.
Ah voilà, alors après, ça... Mais par rapport à l'arbre en lui-même, à mon avis, la mousse, ça ne va pas le faire pourrir plus vite. Ça, voilà, ouais. C'est simplement que c'est un arbre qui a de l'âge, sur lequel il y a de la vie, et puis voilà. Maintenant, si visuellement, c'est clair que ça vous dérange, ben là, il faut gratter, mais ça peut vite prendre beaucoup de temps, quoi. Hein.
Oui, ça prend énormément de temps.
Ça prend énormément.
Hein, mais bon, j'ai le temps, alors ça va.
Alors,
donc, merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir appelé. Une excellente journée, bon week-end. Hein. Et voilà, les jardinières, ça prend fin. Ça prenait forme, mais là, ça prend fin. Éline, on rappelle ce que peuvent faire nos auditeurs tout au long de la semaine, c'est-à-dire envoyer via SMS et via les formulaires.
Hein. Exactement. Là, on a encore reçu quelques SMS. Pas de panique, on les prend pour la semaine prochaine. Hein. Vous nous écouterez à nouveau entre 7h et 8h. Et je rappelle à tous les auditeurs, si une question leur survient pendant la semaine, n'hésitez pas donc à remplir le formulaire de contact qui se trouve sur nos sites internet sous l'onglet émissions, ou alors comme durant l'émission vous pouvez nous envoyer les SMS en tapant le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question, le tout au 939. On les garde bien au chaud pour la semaine prochaine.
Vous n'avez pas été frileux ce matin, vous avez été nombreux à appeler, effectivement, alors on ne peut pas tous vous prendre en même temps, mais n'hésitez vraiment pas, on sera de retour la semaine prochaine dès 7h. On se réjouit d'ores et déjà, et Christophe, encore un grand merci de vous être levé Beto ce matin pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs, des auditeurs qu'on remercie puisqu'ils sont fidèles et très nombreux. Une belle journée, un beau week-end, encore un grand merci. Eileen, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Une bonne journée.